Marceau, le matin. Come together
right now. Over me. Bon lundi les amis, 7h06, on est le 22 juin 2026, c'est 15 degrés sur Québec. Ça se réchauffe tranquillement mais sûrement, des nuages pour aujourd'hui avec des probabilités d'averses en mi-journée, même risque d'orage cet après-midi et ce soir, minimum de 15 degrés. Demain, mardi, ce sera des nuages avec un 60% de probabilité d'averse maximum de 21. Mercredi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse maximum de 21. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 24. Et vendredi, ce sera de la pluie avec un maximum de 20 degrés.
C'est présentement sur la rive sud que c'est plus compliqué. Le ralentissement pour l'accès au pont Pierre-Laporte en direction nord est déjà bien installé, là, notamment sur la 73. C'est présentement entre la sortie des chutes et la rue Beaulieu que ça bloque. Sur la 20 direction ouest, à hauteur d'avenue Taniata, c'est au rouge également. Leur ancienne direction sud, léger ralentissement pour accéder à la capitale qui s'installe tranquillement, pas vite. Et Robert Bourassa, direction sud, à hauteur de Le Bourgneuf, c'est au rouge également.
Je me suis levé ce matin et je regardais ce que les différents chroniqueurs avaient comme sujet, puis je suis tombé sur le sujet de Richard Martineau. Puis ça changera pas le monde, sauf qu'on a toute cette réflexion-là quand on commence à appeler à certains endroits. Là. Moi, je suis pas un appeleux, Mathias. T'es-tu un appeleux, toi?
Non, pas particulièrement. Non.
Moi, là, si tu veux me rejoindre, texto sur mon cellulaire ou encore Messenger, tu vas me rejoindre assez rapidement. Là. Mais si tu m'appelles, il y a de fortes chances que je te réponde pas. En fait, je te répondrai jamais. Si tu laisses un message, ce message-là ne sera probablement jamais écouté. Si ce n'est peut-être que lorsque mes ancêtres là, retrouveront mon téléphone cellulaire que j'aurai caché dans le fond d'un coffre-fort. Il y a toujours bien un historique un peu louche là-dessus.
Ben, je peux pas donner ça, à tout le monde. Là.
Mais je ne réponds pas au cellulaire. Je n'ai aucune idée pourquoi. J'ai développé une maladie par rapport au téléphone. J'aime pas ça.
Ouais, moi, je réponds. J'appelle rarement. Je texte.
Puis là, je suis là-dedans, moi, là. Je suis là-dedans. Faut que j'appelle à certains endroits. Je suis dans un processus de déménagement. Tu sais, faut que je loue un stationnement à l'autre bout. Fait que là, ouais. C'est pas le même propriétaire que le stationnement. Puis là, faut que je laisse des messages. Puis là, j'appelle. Ça m'écœure, mais je me rends de plus en plus compte que c'est difficile de parler à un être humain. Ça n'existe plus, secrétaire, pratiquement. Ça n'existe plus, les adjointes administratives. Bonjour, mon beau Mathias. Bonjour, mon beau Jeff. Bonjour, mon beau Yann. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce matin? Ah, tu veux parler au monsieur qui s'occupe du stationnement? Parfait, je te le transfère. Il est justement disponible. C'est plus ça, là.
Non, du tout.
Quand t'appelles au gouvernement, ils te demandent ton numéro d'assurance sociale, t'es né quel jour, t'es quel signe astrologique.
T'as demandé tout ça avec le... avec la machine.
Ça finit plus. Puis Martineau, il parle de ce sujet-là ce matin. Il dit, je veux parler à une vraie personne. Je suis tanné de parler à des robots. Il dit, existe-t-il dans ce vaste monde une entreprise, un ministère, une administration ou un bureau qui a recours à de vraies personnes pour parler aux gens qui appellent, tu sais, des vraies personnes avec un système sanguin, des corps aux pieds, des brûlements d'estomac. Il dit, parce que j'en ai ras-le-pompon des robots qui me disent d'utiliser mon clavier de téléphone pour entrer la date d'anniversaire de ma grand-mère, le numéro de ma police d'assurance vie de mon beau-frère ou encore le nombre de polypes que le médecin a trouvé la dernière fois que j'ai passé une colonoscopie. Je veux parler à du vrai monde. Ouais. Pourquoi on en est rendu là? Hein? Pourquoi c'est rendu des systèmes téléphoniques? Puis quand tu appelles au gouvernement, là, je pense que c'est au gouvernement fédéral. Ouais, je pense que c'est au gouvernement fédéral. Le nombre de fois où je dois rentrer des informations, puis ça fonctionne pas. Puis là, après ça, on m'envoie dans un département. Puis là, tu as comme 4, 5, 6 options. Ouais. Tu viens qu'à perdre le nord.
Mais ben, c'est les coûts. T'sais, moi, j'ai déjà implanté un système comme ça de robot là, dans une organisation. Donc, ça avait coûté, là, grosso modo, là, entre 40 à 50 000 $ la facture pour l'achat du module, l'implantation, ouais. Tout le kit, la formation des employés qui, après ça, allaient utiliser. Puis ça m'a permis de couper 15 postes à temps plein.
Fait que le boss juste était avec
content.
Ça?
Fait ouais. Que le boss était content.
Mais de l'autre côté, au niveau du service à la clientèle, les clients étaient-tu plus satisfaits?
Ils étaient moins satisfaits.
Ouais, c'est ça.
Mais le boss était content qu'on ait coupé 15 postes à temps plein. C'est moi, ça l'est dit, moi, je compte ça. Là. J'en ai implanté dans deux organisations. Là. Puis je trouvais qu'on donnait un moins bon service à la clientèle. Mais quand t'as un boss qui dit « Hey, faudrait qu'on économise.
Ouais. »
Puis en bout de ligne... Même si c'était des entreprises privées, tu perdais pas tant de clients à cause de ça versus les coûts en opération que tu venais sauver.
Ouais. Martineau, il conclut sa chronique un matin en disant « Savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle? Bientôt, on va tous avoir un robot qui va parler aux autres robots à notre place et personne ne va pogner les nerfs parce que les robots n'ont pas de nerfs. Nos problèmes ne seront pas réglés plus vite, mais au moins, on n'aura pas besoin d'être suspendu à notre téléphone pendant 8 heures car le robot va le faire pour nous. Notre robot va écouter de la musique de robot en attendant de parler à un robot qui va le renvoyer à un autre robot. C'est-il pas beau? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? On va regarder des films faits par des robots. »
Hey, on va être dans les films de science-fiction.
En fin de semaine, pendant peut-être... Écoute, j'ai fait de la moto. En passant, j'ai le droit de le faire, là, fait que là, avant de me tirer des roches.
Ouais.
En fin de semaine, j'étais dans mon casque de moto, sur ma moto, puis dans mon casque, j'ai un dispositif, c'est un dispositif cellulaire, puis je peux écouter de la musique aussi. Puis je vais te dire, ben franchement, des fois, je veux monter le son, mais je peux pas parce que tu as une limite de son que tu peux...
Pour que tu puisses entendre le bruit ambiant.
Pour que tu puisses entendre le bruit ambiant.
Pis c'est bien fait.
J'ai été... j'étais sur Spotify, dans mon casque, et je n'ai écouté, malheureusement, que de la musique faite par l'intelligence artificielle.
C'est débile, hein?
C'était de la musique country. Puis là, j'ai dit, crif, c'est quoi cette playlist-là? Puis c'était AI country, genre.
Ben voyons donc. Ouais. On est rendu là.
C'est, je suis arrivé random là, sur mon Spotify, puis c'est ça, AI country. Pendant 2 heures à peu près, je n'ai écouté que ça. C'est triste en maudit,
ben
parce
oui,
que la musique est pas mauvaise. Là.
Ben non, tu nous en as fait écouter l'autre jour.
Elle est vraiment bonne. Puis là, je suis là, puis je trouve ça super bon jusqu'à temps qu'elle shot. Ben shot. Que je débarque dans ma moto, puis je regarde la playlist, parce que je la trouvais bonne. Je me suis dit, mais je vais toujours bien la sauvegarder. AI playlist.
Tu t'en étais pas rendu compte, pas en tout.
Je m'en étais pas rendu compte, sauf que les voix sont tellement chaudes, tellement graves, tellement parfaites que j'aurais dû m'en rendre compte.
Ouais, parce que là, à un moment donné, remarque, t'sais, des fois, c'est juste une chanson, puis même avec un être humain en studio, on est capable de jouer un peu avec sa voix.
Ouais.
Fait que c'est normal que dans une playlist, peut-être, tu t'en es pas rendu compte, parce que pour une chanson, l'artiste peut être capable de la pousser de cette façon-là, sa voix grave, ce qu'il ne serait pas capable dans un show en entier. Là.
Non, c'est ça. 7h12, on va y aller avec Mathias en ce lundi. Mathias, c'est quoi les 3 principales nouvelles de la journée?
Les actualités, Leclerc Communication.
Le corps du kayakiste porté disparu a été retrouvé. Depuis mardi, la Sûreté du Québec est à la recherche de l'homme de 20 ans qui avait été aperçu pour la dernière fois en soirée. Son kayak avait été retrouvé le soir même, soit mardi, mais aucune trace du jeune homme jusqu'à hier après-midi. C'est donc hier après-midi que les services d'urgence ont été appelés à intervenir près de la rivière Etchemin à Saint-Romuald où son corps a été retrouvé. Sondage d'appréciation de nos élus qui est sorti ce matin dans le Journal de Québec, la firme Léger qui fait ce sondage-là aux quelques mois. C'est Mark Carney, qui est le premier ministre canadien, qui est la personnalité la plus aimée de la classe politique. Christine Fréchette arrive à la 2e place et Mélanie Joly à la 3e place. Parmi les moins aimés, le top 3 est Pierre Poilievre, Éric Duhaime et Bernard Drainville. C'est maintenant officiel, l'ex-animateur de radio Dominique Dumas sera candidat pour le Parti conservateur dans Chute de la Chaudière, nous rapporte Le Soleil ce matin. Le tout va être annoncé ce soir à 17h par le parti. C'est présentement Martine Biron qui est élu de la circonscription. Selon les prévisions de QC125, les conservateurs qui sont favoris avec 30%, mais suivis de près par le PQ à 26 et la CAQ à 25.
Les sports. Sports.
Et les sports, mon ami?
Oui, échange monstre dans la Ligue nationale. Brady Tkachuk qui s'en va du côté de la Floride rejoindre son frère Matthew. C'est 3 choix de première ronde au total que les Panthers ont dû céder aux Sénateurs pour acquérir l'attaquant de puissance. On a également ajouté un choix de 2e tour en 2030. La Coupe du monde de soccer continue aujourd'hui et a continué en fin de semaine, notamment victoire de 4-0 de l'Espagne contre l'Arabie saoudite, match nul de la Belgique contre l'Iran hier et Uruguay et Cap-Vert, match nul également. Aujourd'hui, dans les matchs à surveiller, le premier match aujourd'hui est à 13h, Argentine contre Autriche, suivi de 17h, France-Irak et à 20h, ce qui pour moi est le gros match de la journée, Norvège face au Sénégal.
Merci beaucoup, mon ami. On en parle avec David Chabot tantôt, les États-Unis et l'Iran qui s'accordent sur une feuille de route pour un accord de 60 jours. Combien de temps ça va tenir, ça, Jeff? On le sait pas trop. Hier après-midi, juste allumer ton micro.
Oui, c'est ça que j'ai fait.
Hier après-midi, les Iraniens se sont fâchés en raison des négociations. Puis on dit, non, on va refermer ça pour un bout. Donc là encore, là, ça crée de l'incertitude. Par contre, au niveau du prix du baril du pétrole, ça semble pas jouer tant que ça. Le prix du baril du pétrole qui est quand même assez bas. Présentement.
Ouais. Je te pose une question. Est-ce que c'est parce que là, on est tellement habitué de la situation que peu importe la variation, ça ne cause pas trop de problèmes?
C'est une très bonne question. On pourrait poser cette question-là à notre expert Yvan Clich, qui est fellow et spécialiste en énergie au Cerium. Bonjour, M. Clich. Comment allez-vous ce matin?
Ça va bien, merci.
Merci d'être là. Qu'est-ce qui fait en sorte que le prix du baril de pétrole est très bas, mais qu'ici, au Québec, exemple, l'essence n'a toujours pas descendu tant que ça? C'est l'incertitude?
Oui, la situation, écoutez, a jamais été aussi incertaine. Moi, pour avoir suivi le marché pétrolier depuis longtemps, j'ai jamais vu un marché qui est aussi collé à des événements politiques. Habituellement, un marché va se coller sur les grandes tendances économiques. Est-ce qu'on s'en va vers une récession? Est-ce qu'on s'en va vers une croissance économique? Et là, c'est les dimensions, les variables économiques vont être les plus déterminantes pour déterminer le prix. Et puis là, ben c'est pas ça du tout. C'est vraiment des événements géopolitiques. Ce sont la suite des négociations entre les États-Unis et l'Iran et la possible réouverture prochaine, espérée, de la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Alors, aussitôt que l'espoir renaît, ben les marchés réagissent très rapidement et les cours du baril sont en baisse. Et au contraire, quand on annonce peut-être une reprise des hostilités, que la situation semble ne pas avoir d'issue, ben là, les prix se remettent en trajectoire haussière. Alors, c'est vraiment une situation extrêmement fluide. Ça évolue vraiment d'heure en heure selon la perception de l'évolution des discussions entre les États-Unis et l'Iran quant à une solution durable à la crise.
Je regardais, le prix du baril nord-américain était hier à 75,70, donc du baril. Et pour ce qui est du Brent de la mer du Nord, on est à 79 $ à peu près. À qui ça profite présentement? Est-ce que c'est les pétrolières qui s'en mettent plein les poches? C'est-tu les gouvernements qui s'en mettent plein les poches en raison? Bon, le prix du litre d'essence est très élevé, donc au Québec, les taxes... Des taxes rentrent à profusion. À qui ça profite?
Ben, pour le moment, moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils s'en mettent plein les poches, parce qu'un prix dans la zone des 70 $, c'est un prix qu'on a connu ces dernières années. Là où vraiment les entreprises en sont mis vraiment plein les poches, c'était en 2022, la suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Il y a une explosion des prix de l'énergie, puis ouais. Les prix du pétrole ont été extrêmement élevés. On a atteint le 2 litres à Montréal l'essence pendant donc une période durant l'été. Alors là, ça a été des années extraordinaires parce que c'est les profits records. L'industrie pétrolière existe depuis plus de 150 ans et là, ça avait été les profits records pour à peu près toutes les grandes entités pétrolières, autant les sociétés d'État qui agissent comme opérateurs pour au nom de leur État, comme par exemple Saudi Aramco pour l'Arabie Saoudite, c'est une société d'État, ou des entreprises classiques comme celles qu'on connaît, Exxon, Total Energy en France, etc. Là, ça avait été vraiment une bonne année. Cette année, ça ne sera pas une mauvaise année, loin de là. Ça va être quand même une année assez rentable parce que si les prix ont été beaucoup plus élevés que les projections que ces entreprises le font. En début d'année, comme vous en doutez, elles font des projections de revenus basées sur un certain prix du pétrole.
Ouais.
Les prix ont été plus élevés, donc ça va être une bonne année. Mais moi, je tape encore sur le même tambour. Les prix ont été beaucoup moins élevés que ce que beaucoup s'attendaient.
Bon, on avait des hypothèses. On avait des hypothèses à 2,30 $. C'est-tu encore le cas? Est-ce qu'on croit encore un litre à 2,30 $ au Québec?
Oui, c'est absolument pas impossible. Oui, c'est absolument pas impossible si effectivement on ne trouve pas d'issue aux négociations qui ont cours présentement. Donc le risque est toujours là, ça c'est clair. Le risque est d'une augmentation importante des prix du pétrole et de l'essence. C'est encore une possibilité quand même, je dirais, assez importante parce que. Si on n'arrive pas à régler, à remettre du pétrole en circulation à partir de cette région, ben là, c'est sûr que les réserves qu'on utilise à un nouveau record vont commencer à véritablement baisser de façon inquiétante dans des zones inquiétantes. Et là, véritablement, on pourrait assister à une augmentation des prix du pétrole. Donc, on continue toujours de surveiller est-ce que les navires circulent ou pas dans, à partir de cette région, est-ce que le pétrole s'est remis à circuler? Si c'est oui, ben là, je pense qu'on va citer des prix du pétrole tout à fait dans les ordinaires plus élevés que ce qu'ils auraient été si on n'avait pas eu la crise, mais quand même, je dirais, relativement acceptable pour l'économie mondiale. Et si le pétrole ne se remet pas à circuler, ben là, effectivement, on pourrait avoir une trajectoire haussière rapide qui, là, amènerait les prix dans les zones où les experts avaient prévu lors du déclenchement du conflit. Mais pour le moment, moi, je dirais que le marché est extrêmement résilient affiche des prix élevés, bien, beaucoup moins élevés que beaucoup avaient entrevu là, lorsque la crise s'est déclenchée.
Pour ce qui est de l'histoire, dans l'histoire des conflits avec des pays, justement, qui ont une mainmise sur le pétrole, est-ce qu'on peut se fier à ces conflits-là pour se dire, hey, jusqu'où ça peut aller en termes de prix très élevés, puis comment on peut penser qu'une situation se stabilise?
Ben, c'est un peu, j'ose presque ne pas trop m'aventurer là-dedans, parce que, comme plusieurs, moi, je pensais que les prix du pétrole allaient certainement aller autour du 150 $ le baril. Ça s'est pas avéré. Ça montait à peu près à 120 $, puis ensuite, ça s'est atténué. Il y a différents facteurs un peu imprévisibles là, qui sont intervenus, qui ont aidé le marché. D'une part, les pays asiatiques se sont mis en mode de rationnement sévère pour diminuer leur consommation de pétrole. Donc, bien sûr que ça aide. Il y a également la Chine, et ça a été un facteur très important qui a beaucoup moins porté. La Chine a été le principal vecteur de la croissance de l'industrie pétrolière au cours des 20 dernières années. S'il y a eu une croissance, c'est beaucoup en raison des importations chinoises, des Chinois qui sont devenus les manufacturiers du monde. Alors, la Chine s'est mise aussi à utiliser davantage ses réserves que d'importer. Donc, ça aussi, ça a atténué un petit peu la pression sur le marché. Et puis, on a également utilisé des réserves. On a, à partir des années 70, la grande leçon, c'est on fait des réserves. Alors, les pays les utilisent, mais les utilisent à un niveau, je dirais, record. Ça peut fonctionner pour quelque temps, mais bien sûr, il y a une limite à ça, surtout quand vous n'avez pas l'occasion de reconstituer vos réserves.
Ben, c'est
alors
ça.
Là, l'inquiétude, c'est que les réserves sont utilisées de façon record et sont à leur plus bas depuis 2 décennies. Alors, à un moment donné, c'est sûr qu'il va bel et bien falloir que des tankers partent du Golfe Persique et se remettent à alimenter le marché, le système énergétique mondial. Et puis, ben, le marché, justement, il est suspendu à ça. Et surtout qu'il y a des bonnes nouvelles, ils se disent, ah, enfin, la situation est réglée. Les prix, dans 3-4 mois, ça devrait être beaucoup moins compliqué. Donc, ils se mettent à établir un prix. Ben, c'est évidemment une conjonction de différents opérateurs, là, qui soumettent des prix pour le pétrole et s'entendent sur un prix relativement acceptable. Mais par contre, plus les jours passent, plus les semaines passent, là, on va véritablement rentrer dans une zone beaucoup plus dangereuse s'il n'y a pas de règlement définitif.
Yvan Cliche, vous êtes fellow et spécialiste en énergie au Cerium. Moi, je suis un petit peu conspi dans l'âme, là. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on doit mettre de l'essence juste avant les festivités de la Saint-Jean, les festivités de la fête canadienne le 1er juillet ou encore avant les vacances de la construction? On a toujours tendance du côté des conspirationnistes comme moi à penser que les essenceries augmentent le prix de l'essence juste avant les vacances. C'est-tu juste dans ma tête ou ça a déjà existé dans l'histoire de l'humanité?
Non, ben écoutez, les essenceries, ils vont augmenter les prix parce que d'une part, il y a l'essence d'été, là, qui est un peu moins polluant. Donc, il y a déjà une augmentation, il ne faut pas l'oublier. Puis d'autre part, en été, on consomme plus. Donc, quand il y a une hausse de la demande, bien sûr que l'offre devient plus chère, comme dans n'importe quel produit. Là. S'il y a une hausse de la demande, les prix augmentent. Donc, c'est ça qui fait que l'essence d'été est plus chère. Moi, je pense que ça va être peut-être un peu moins cher que les années antérieures parce que les gens vont peut-être plus se restreindre. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier également que quand vous voyez les prix aux essenceries actuellement, il faut rajouter un 10 sous là, si vous voulez avoir le vrai prix.
C'est vrai.
Le gouvernement fédéral a suspendu sa taxe d'accise. C'est 10 sous. Donc, quand vous voyez 1,70, en fait, dans la réalité, ça serait 1,80. Et jusqu'au 7 septembre, normalement, on profite de cette mesure. Puis si vous voulez justement savoir, dire est-ce que je devrais aller à l'essencerie pour remplir ma voiture d'essence, ben regardez la situation dans le détroit d'Ormuz. Si les négociations vont bien entre l'Iran et les États-Unis, ça veut dire que la circulation reprend petit à petit. Et si la situation va mal, ben là, vous pouvez peut-être vous dire, ben je devrais y aller immédiatement parce qu'on pourrait assister dans les prochains jours à une explosion des prix. Donc, faut suivre la situation au jour le jour des négociations qui ont cours entre l'Iran et les États-Unis.
On va souhaiter que ça aille bien pour eux là-bas en raison des pertes de vie. Puis de notre côté, ben, on va souhaiter que ça aille bien là-bas en raison du coût de l'essence. Merci, M. Klisch.
Merci, au plaisir.
Au revoir, Yvan Klisch, qui est fellow et spécialiste en énergie au Cerium. Moi, j'ai toujours pensé ça, moi, que les essenceries, là, ils se rencontraient dans un lieu obscur. Ben,
c'est
là,
clair.
Dans la grande région de Québec.
Check bien ça, monter.
Au bout de chez Napoléon, là, ils sont dans la cave. Là, ils disent, ouais. OK, les vacances s'en viennent, on va s'en mettre plein les pots.
Check bien ça, monter demain. Puis si je me trompe, tant mieux, là. Mais les gens vont circuler pour la Saint-Jean-Baptiste.
Oui, c'est ça. 418-971-1021, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous voulez communiquer avec nous, c'est par texto. Merci d'être nos yeux, nos oreilles, les amis. Sinon, à la météo, c'est 15 degrés sur Québec. Je vois sur le site d'Environnement Canada qu'on pourrait peut-être voir le soleil aujourd'hui, mais on nous parle d'averses là, qui devraient débuter en mi-journée avec des risques d'orage cet après-midi et ce soir, minimum de 15. Donc ça, c'est le topo pour la météo aujourd'hui.
Sur la circulation, présentement, l'accès au pont Pierre-Laporte en direction nord, ralentissement surtout présent sur l'autoroute 73, 20 direction est et ouest à hauteur d'avenue Taniata, ralentissement à signaler. Laurentienne direction sud, petit ralentissement aussi pour l'accès à la capitale. Et route de la Bravo pour l'accès à la base militaire côté Shannon, ralentissement qui commence à voir le jour également.
Pour nous informer de